Dans la petite ville de Lussan, en Suisse, se trouve un château qui a été construit au XIIIe siècle. Ce château fait la fierté de cette petite ville et il a servi pendant un certain nombre d'années comme musée. Et une des salles de ce musée contenait des instruments de torture. Quand je l'ai visité, ça m'avait passionné. Et dans cette salle où se trouvaient les instruments de torture, il y en a deux dont je me souviens très bien. Premier instrument de torture, c'était une femme en fer. En fait, c'était une boîte en forme de personne qui était peinte, décorée très soigneusement en femme. Et cette boîte pouvait s'ouvrir. On pouvait rentrer à l'intérieur. Il y avait peu de place. Mais à l'intérieur se trouvent des couteaux partout qui vont vers le centre. Alors le condamné était mis dans cette femme en fer. Mais à cause des couteaux, on ne pouvait pas fermer la porte complètement. Alors, ils avaient mis une vis, ils mettaient le condamné à l'intérieur, et avec la vis, ils fermaient tout doucement la porte. Et quand la porte était fermée, il avait perdu la vie. Incroyable. Il y avait un autre instrument de torture que j'ai trouvé extrêmement passionnant, c'était les harnais pour écarteler les gens. Alors, on accrochait ces harnais aux bras. Et aux jambes, on mettait un cheval à chaque membre et les chevaux tiraient chacun de leur côté. C'est incroyable comme l'être humain est ingénieux pour faire du mal aux autres, hein? Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, cette torture continue. Vous ne vous êtes jamais senti opprimé, comprimé, serré, avec l'impossibilité de sortir de là, comme dans cette femme en fer. Et est-ce que vous ne vous êtes jamais senti écartelé, tiré de tous les côtés par des tâches, par des demandes, par des exigences, par des choses à faire, par toutes sortes d'attentes qu'on a sur vous? Écartelé d'un côté, comprimé de l'autre. Et vous savez, finalement, le diable a utilisé ces instruments de torture dans le passé, mais maintenant qu'il n'a plus besoin de ces instruments-là, la torture continue de la même manière, autrement, plus subtilement peut-être. Mais la torture continue. Le problème, c'est que cette manière de vivre que nous avons aujourd'hui a transformé notre relation avec Dieu, et en particulier notre prière. Parce que nous nous trouvons, à cause de cette torture parfois permanente, soit comprimée, soit d'être écartelée, nous nous trouvons dans une période de crise permanente. Et à cause de cela, nous avons des prières de crise. Nous avons conscience de nos besoins, de besoins urgents, de besoins pressants, et nous les présentons à Dieu. Et finalement, nos prières deviennent cette liste de besoins pressants, urgents, absolument impérieux, et nous disons à Dieu, Seigneur, voilà, exauce ça. Amen. Et notre prière suivante ressemble encore à celle-là. Parce que nous sommes encore soit écartelés, soit comprimés dans cette torture que le monde actuel continue de perpétrer contre chacun d'entre nous. Nos prières, par conséquent, dans notre vie moderne, sont perverties par cette persécution, par cette torture que l'ennemi continue, sans instrument d'ailleurs, aujourd'hui. La pression que nous sentons a transformer nos prières et en a modifié les priorités. Et les priorités de nos prières aujourd'hui, c'est nous, nos besoins, nos urgences. Le problème maintenant, c'est lorsque Dieu ne répond pas à mes urgences, à mes appels d'urgence. Lorsque Dieu met du temps à répondre, ou lorsqu'il répond de temps en temps, ou parfois pas. Et là, à ce moment-là, nous nous demandons si le Seigneur est encore vraiment intéressé à nos affaires, s'il est encore occupé à nous secourir, comme il le dit si bien dans tous ses psaumes. Et certains, à cause du fait que les prières ne semblent pas avoir d'exaucement aussi rapide qu'ils ont adressé la prière, se demandent si Dieu vraiment est encore intéressé à répondre à nos prières. Si bien que notre fonctionnement de cette relation avec Dieu devient très fonctionnel, très basé sur j'ai besoin de ça, est-ce que je vais l'avoir? Et nous ne nous en rendons pas compte, mais ce mode de fonctionnement tente à nous conduire de plus en plus vers un salut par les œuvres. C'est-à-dire que nous regardons les résultats immédiats de nos prières. Nous avons besoin de ça tout de suite. Est-ce que Dieu nous l'a donné tout de suite ou à peu près? Mais la conséquence de cela, c'est que finalement, en fonctionnant beaucoup plus souvent que nous le voudrions sur le mode salut par les œuvres, nous voudrions que Dieu fonctionne aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que Dieu restera Dieu pour nous s'il répond par ses œuvres. Mais si Dieu ne répond pas par ses œuvres, alors est-il Dieu ? Curieusement, nous forçons Dieu, à notre manière, à fonctionner aussi par le salut par les œuvres. Nous lui conservons notre confiance s'il répond par ses œuvres. Mais s'il ne répond pas par ses œuvres, alors notre confiance ne sera peut-être plus aussi grande et il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Autrement dit, nous nous retrouvons, adultes que nous sommes, dans la situation de ces jeunes, parfois, qui disent à papa, écoute, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais les parents, ils n'en ont cure. Ils s'en moquent complètement. C'est simplement pour pourvoir. Donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai besoin. Fais ma lessive, donne-moi à manger, j'ai de l'argent, je dois sortir, je fais ci, je fais ça. Mais les parents, on s'en fiche. Et finalement, Dieu peut devenir, sans que vraiment nous le présentions de cette façon-là, comme celui qui doit pourvoir à tous les besoins urgents que nous avons aujourd'hui et demain et hier. Une vision finalement très étroite, très obtuse, à court terme des choses, qui nous fait perdre la vision à long terme d'une relation avec Dieu et du plan qu'il peut avoir pour nous. Il nous a promis d'avoir un plan. Mais ce plan, nous ne le voyons pas, nous voyons simplement que maintenant, voilà le problème, Seigneur, voilà le problème qu'il faut résoudre. À toi de jouer. Finalement, on s'éloigne pas mal de ce que nous savons et de ce que nous avons appris comme étant la prière de cette relation avec Dieu. Pour reprendre quelques phrases que vous connaissez bien dans le livre Vers Jésus, prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Ou bien alors, cette phrase du ministère évangélique où il est dit « La prière, c'est la respiration de l'âme. Ce n'est pas la liste de courses. C'est la respiration de l'âme. » Pour nous recentrer sur ce que la prière est véritablement, j'aimerais regarder quelques versets d'un psaume que nous avons lu déjà tout à l'heure, qui est le psaume 63. Le contexte de ce psaume est particulièrement intéressant parce qu'il va éclairer ce qui est dit dans ce psaume. Dans tout le premier livre de Samuel, nous avons le contexte de ce psaume où on apprend que David, qui a été oint comme roi, est pourchassé comme une bête sauvage par le roi Saül, qui règne encore et qui veut absolument et à tout prix éliminer son rival. Alors il va le poursuivre, faire tout ce qu'il peut pour le détruire, envoyer son armée. Et David va se réfugier dans les cavernes, dans les trous, dans les déserts. Il est en fuite permanente devant le roi Saül. Et il va dans ces déserts, en particulier le désert de Juda, qui est au sud, et qui est un désert sec, aride, chaud, où il n'y a rien. Vous vous souvenez, ce désert-là a été à certains moments traversé par le peuple d'Israël, qui avait quitté l'Égypte dans ses pérégrinations, dans le désert du Sinaï, il a traversé aussi cette zone-là. C'est une zone où il n'y a rien. Et lorsque le peuple d'Israël traversait cette zone-là, Dieu a dû donner de la manne pour qu'ils aient à manger. Dieu a dû leur donner l'eau du rocher pour qu'ils puissent boire. Il n'y a rien. Si, il y a des serpents. Et si quelques-uns d'entre vous ont été dans cette région-là, vous savez à quoi ressemble le désert de Juda. Des cailloux, des cailloux, des cailloux, et de la chaleur. Et c'est dans ce contexte-là que David va écrire le psaume 63. Il est en fuite, pourchassé, traqué jour et nuit. Et il dit par exemple au verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Et malheureusement, notre texte ici n'a pas introduit le mot qui manque, parce que le texte dit réellement « Je te cherche avec ardeur. » Je te cherche avec intensité, je te cherche intensément, dit le texte. C'est intense, c'est puissant, je te cherche intensément, avec ardeur. C'est ainsi que David cherche Dieu dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il ne dit pas « je cherche de l'eau et je cherche à manger ». Il dit « je te cherche intensément ». Pourtant, David a avec lui des hommes qui le défendent, qui font la résistance avec lui. Mais ces gens, il faut les nourrir, il faut leur donner à boire aussi, ils sont sous sa responsabilité. Ces gens ont aussi une famille, des familles qu'il faut protéger dans le désert. Plusieurs fois, David a dû se demander, qu'est-ce que je vais donner à manger à ces gens? Qu'est-ce que je vais leur donner à boire? Où est-ce qu'on va se cacher? Maintenant que cette caverne a été découverte, dans laquelle allons-nous déménager? Et pourtant, je te cherche intensément. C'est une quête, non pas de choses, c'est une quête de Dieu. Et c'est par là que commence sa prière. Au verset 3, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Dans cette terre desséchée où il n'y a ni à boire, ni à manger, ni rien à faire sinon se cacher, David est en train de dire, pour te trouver, alors je contemple ton sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, il y voit sa puissance et sa gloire. Maintenant, dans le sanctuaire, où est-ce que la gloire et la puissance de Dieu se manifestaient? Dans le lieu très saint, avec la Shekinah, cette manifestation visible, tangible, de la puissance et de la gloire de Dieu. C'est là qu'il va voir Dieu. Il va tourner ses regards vers le sanctuaire, autrement dit, vers ce lieu où il sait que Dieu habite, où il sait que Dieu est, où il sait que Dieu se manifeste. C'est là qu'il regarde, dans le sanctuaire. Et il dit au verset 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Ta bonté vaut mieux que la vie. Écoutez, sa vie pend à un fil, non seulement parce qu'il est poursuivi par une armée qui veut le tuer, mais parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il va manger demain et de ce qu'il va boire tout à l'heure. Deux éléments qui sont d'une valeur inestimable à ses yeux et qui ne sont pas garantis du tout. Et il dit, ta bonté est pour moi plus importante que d'avoir la vie et que de pouvoir manger et que de pouvoir boire. C'est pour ça que je vais te louer. Mes lèvres célèbrent tes louanges combien de temps? Toute ma vie. Et il traduit son besoin physique en un besoin spirituel qui pour lui est encore plus important. Et il dit, voilà, en m'approchant de toi de cette manière-là, à ce moment-là, je serai rassasié de mes succulents et je pourrai boire aussi. Il a soif, il a faim, mais cette soif et cette faim-là sont pour lui moins importantes que la faim et la soif de la présence de Dieu. D'ailleurs, dans ce psaume, il ne parle même pas de sa soif et de sa faim physique. Il dit simplement au verset 8, « Car tu es mon secours, tu es mon secours. » Finalement, il dit à Dieu, « Tu sais que j'ai faim, tu sais que j'ai soif, tu sais que j'ai besoin d'un abri. Tu vas t'occuper de ça, n'est-ce pas? Tu es mon secours. » Maintenant, passons aux choses importante. Au verset 7, il dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » J'imagine que David a souvent des nuits assez courtes. Il dort d'une oreille et de l'autre, il écoute pour savoir s'il y a un danger qui menace sa troupe, ses familles qui sont là avec lui. Et j'imagine que souvent David a eu des nuits blanches. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ces nuits-là? Il dit « Je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » Remarquez une chose, c'est que David médite sur Dieu. Le monde d'aujourd'hui prétend que la méditation consiste à nous vider le cerveau. Mais je trouve qu'il n'y a déjà pas grand-chose dedans. Si on le vide complètement, qu'est-ce qui va rester, mes amis? Vider mon cerveau? Ne penser à rien? Vous avez déjà réussi à ne penser à rien? Quand vous essayez, vous pensez à tout? Ou penser, ou regarder avec l'œil du milieu? Mais moi, j'en ai deux. Comment est-ce que la méditation aujourd'hui peut vider mon cerveau pour ne penser à rien? La méditation biblique est au contraire remplir ma tête et mon esprit et mes pensées de la présence de Dieu. Je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Autrement dit, alors qu'il ne dort pas, il est en train de penser à Dieu. Il a son esprit dans le sanctuaire et il admire la puissance de Dieu, il admire sa gloire, il admire sa présence. Et il n'est pas en train de lui dire « Seigneur, donne-moi vite à manger, Seigneur, pourvois à de l'eau, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Ce n'est pas ce que j'entends dans ce psaume. Sans doute il le fait. Sans doute il le fait aussi, et d'autres psaumes sont des exemples de ce que David demande à Dieu. Mais alors que le besoin est pressant et qu'il est là en fuite dans le désert de Juda, même si c'est une préoccupation, ce n'est pas sa préoccupation première. Je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Verset 8. Car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de ton aile. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Le mot attaché qui est ici dans notre texte est vraiment à prendre dans le sens littéral. Un attachement profond est collé, soudé à toi. Quelque chose que l'on n'arrive pas à séparer. Et dans ce sens-là, il dit « Ta droite me soutient ». La droite, c'est la justice. Benyamin, le fils de ma droite. La justice. Il sait que le Dieu à qui il parle, le Dieu sur lequel il médite jour et nuit, c'est un Dieu de justice. Et il sait que son sort est injuste. Et il lui dit « Je sais que tu es juste et je sais que cette justice me soutiendra » quand tu voudras. En attendant, je cherche ta présence et je te loue jour et nuit. Alors je suis impressionné en regardant ce psaume parce que je découvre dans ce psaume un des objectifs essentiels de la prière. Rechercher la présence de Dieu. L'emphase dans cette prière n'est pas sur les besoins réels, existants de David. Besoin néanmoins. Mais pour lui, dans son esprit, il y a quelque chose de plus important que ça, c'est la présence même de Dieu. Alors quand je prie, je me pose la question. L'important dans ma prière, est-ce que c'est de rechercher la présence de Dieu? Pour quoi est-ce que nous prions? Pour qui est-ce que nous prions? Est-ce que c'est pour obtenir ce besoin urgent qui s'est présenté à moi aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est pour être d'abord proche de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu nous est plus chère que ce qui nous vient à l'esprit de lui demander dont nous avons besoin? Autrement dit, ce psaume est une illustration extraordinaire d'un homme qui est capable de mettre de côté ses besoins essentiels et présents pour rechercher quelque chose qui pour lui lui paraît plus important, la présence de Dieu. Parce que dans son esprit, la présence de Dieu lui garantit la satisfaction de tous les besoins concrets qui sont les siens aujourd'hui et demain. L'apôtre Jacques nous dit que lorsque nous prions, nous n'avons pas la réponse à nos prières parce que nous prions mal. Et je peux comprendre ça à bien des égards. Je reconnais que ma prière a souvent été une liste de courses et que Dieu a dit « Encore, tu me l'as déjà donné hier et avant-hier et le jour avant. » Parfois, nous dit Jacques, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal pour de mauvaises raisons. Mais lorsque nous demandons bien et que ça n'arrive pas, qu'y a-t-il encore qui manque peut-être dans la recette de la prière? Ce premier objectif, c'est le premier de deux parmi un certain nombre que j'aimerais mentionner ce matin qui me paraissent importants, essentiels et probablement les deux premiers objectifs que nous oublions quand, face à l'urgence, nous prions Dieu de répondre aux besoins présents. Le psalmiste avait fait aussi cette expérience-là. Vous connaissez le psaume 73 qui a été écrit par Asaph. Ce psaume 73 commence avec une réflexion que nous pourrions avoir aussi. Il est dit au début de ce psaume, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Et vous connaissez la suite du psaume où il dit, « Mais pour ces gens qui font le mal, du matin au soir, tout baigne. » Écoutez, ils n'ont pas de problème, ces gens. Ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Et nous, croyants, qui nous attachons à Dieu, c'est la catastrophe. Et plusieurs versets traduisent cette frustration du croyant qui dit, mais enfin, ces gens qui sont des incroyants, qui ne croient ni à Dieu, ni à diable et qui blasphèment jour et nuit, tout va bien. Au verset 16, il dit à la fin du verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ce n'est pas une question simple pour y apporter une réponse. Et il dit, difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Autrement dit, ici, le psalmiste est en train de faire la même expérience que David. Il disait, j'étais troublé peut-être, mais jusqu'au moment où j'ai regardé dans le sanctuaire. Et là, j'ai vu Dieu. Et j'ai vu que c'est un Dieu juste. Et j'ai pris conscience de ce qui les attend au bout du compte et qui ne m'intéresse vraiment pas. Quand il s'est tourné vers le sanctuaire de Dieu, il s'est rendu compte que ce dont les méchants jouissaient n'est même pas à comparer avec la gloire à venir qui est réservée aux croyants. Parce que gloire à venir, il n'y en aura pas pour les incroyants. Alors à ce moment-là, les choses se sont éclairées dans son esprit. Et il s'est rendu compte que la gloire et la puissance de Dieu qu'il a contemplée dans le sanctuaire apportaient un éclairage, une perspective totalement différente que ce qu'il pouvait voir, j'allais dire, du premier regard, en comparant le sort des méchants et le sort des justes. Cette situation me fait penser à la prière de Moïse. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, se trouve une prière de Moïse qui est aussi, malgré tout, dans une situation de crise. Les versets qui précèdent cette prière, qui commencent au verset 11, nous racontent l'histoire du veau d'or, une crise catastrophique dans l'histoire du peuple d'Israël. Et lorsque Moïse redescend de la montagne, voilà ce qu'il trouve. Un peuple qui se vautre dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. Alors il prie. Et il pourrait prier, probablement que si c'était moi, j'aurais dit « Seigneur, fais tomber le feu du ciel sur ces gens-là ». Mais heureusement, c'était Moïse qu'ils avaient comme chef. Et Moïse dit, verset 11, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, Repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Moïse ne dit pas, « Fais tomber le feu du ciel sur ces gens, j'en ai marre. » Il leur dit, « Seigneur, retiens-toi. Que vont dire les autres si tu agis de même envers eux ? Pense à la réputation que tu vas avoir chez ces gens. Si tu agis selon ta colère comme tu veux le faire, surtout ne fais pas ça. Que vont-ils dire de toi ? Que tu es le Dieu méchant comme ils le pensaient ?» Moïse ici intervient, il est surtout préoccupé, non pas tant du peuple, non pas tant de lui ou de son avenir, non pas tant de son autorité sur le peuple, mais il est préoccupé de la gloire et de la réputation de Dieu. C'est ça l'important. Et Seigneur agit en fonction de ta gloire, non pas en fonction du peuple, parce que le peuple, il mérite la mort. Mais n'agis pas en fonction de ça, parce que n'oublie pas, et il emploie là un argument extraordinairement puissant, n'oublie pas, Seigneur, tu as promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, de leur donner une postérité et une terre. Alors ta promesse, Seigneur, tu ne peux pas l'acheter à la poubelle. Que vont dire les autres s'ils se rendent compte que tu es un Dieu qui ne répond pas à ses promesses? Ta gloire est en jeu, Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. Je suis impressionné parce que Moïse n'est pas préoccupé avec les choses qui nous préoccuperaient si on était dans ses chaussures. Et lorsque l'on parle d'un réveil et d'une réforme dans l'Église, notre besoin le plus pressant aujourd'hui, qu'avons-nous encore en tête? Regardez cet autre passage dans le livre du prophète Joël. Joël au chapitre 2. Dans ce livre de Joël au chapitre 2, il est question là aussi d'une réforme et d'un réveil. Un appel à la réforme. Dieu appelle son peuple et il dit « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, revenez à l'Éternel votre Dieu. » Dieu appelle son peuple à revenir, réveil, et à changer de vie. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, appelez le peuple. Et remarquez ce qu'il est dit un peu plus loin, au verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, à la honte, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est ton Dieu? Le prophète dit ici, Seigneur, fais attention dans ce que tu fais à ton peuple, que cela ne porte pas préjudice à ta réputation, à ta gloire, parce que les autres peuples, on voudrait les gagner aussi. Il n'est pas simplement question de sauver ton petit peuple chouchou, là. Il est question de gagner le monde. Mais alors, n'agis pas de sorte que ta réputation, à leurs yeux, soit détruite. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est ton Dieu? Alors, lorsque nous parlons de réveil et de réforme, est-ce que nous avons encore à l'esprit nos besoins d'aujourd'hui et de demain? Ou est-ce que nous avons même à l'esprit notre salut éternel à nous? Ou est-ce que nous avons à l'esprit la gloire de Dieu? La réponse à nos besoins dans notre prière passe-t-elle d'abord par la gloire de Dieu avant de nous arriver? Regardez ce texte dans le psaume 79. Psaume 79. Le verset 9 replace les choses dans ce cadre d'une façon admirable. Autrement dit, remet les choses à l'endroit. Et je crois que dans notre esprit, beaucoup de choses doivent être remises à l'endroit en ce qui concerne la prière. Psaume 79, verset 9. « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Nos besoins sont là, mais ils ne doivent être satisfaits que dans la mesure où ils contribuent à ta gloire, à ton honneur et à ta réputation. Finalement, il s'agit de rechercher Dieu et pas nous, de rechercher sa présence et de rechercher sa gloire plutôt que la nôtre. Dans ce sens-là, les promesses de Jésus prennent un sens particulier. Et je vous propose de regarder nouveau ce texte que vous connaissez dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Évangile selon Jean, chapitre 16. Jésus fait là une promesse extraordinaire, que nous avons parfois du mal à croire, tant elle est extraordinaire. Évangile selon Jean, chapitre 16. Il est dit, au milieu du verset 23, « en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Il n'est pas dit que vous ayez tout ce qu'il vous faut, mais notre joie sera parfaite le jour où nous aurons à l'esprit que la gloire de Dieu éclate devant l'univers à cause de sa justice et de sa bonté. Quand Jésus priait, il priait comme ça. Et quand je compare les prières de Jésus avec les miennes, je suis affolé parce que je me rends compte que j'ai encore un grand chemin à faire. Tournez juste une page au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Cette fameuse prière de Jésus à la fin de son ministère et de sa vie sur terre. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé ce que tu m'as donné à faire. Est-ce que je peux dire, je t'ai glorifié sur la terre? Malheureusement, je me rends compte que je n'ai pas glorifié Dieu sur la terre tous les jours où j'aurais voulu, et que je n'ai pas non plus achevé l'œuvre qu'il m'a donné à faire. Ce sont encore des choses pour lesquelles je dois demander son pardon, parce que j'étais préoccupé par d'autres choses. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mais alors, je me rends compte que si je veux remplir ce mandat-là comme Jésus l'a rempli, il va falloir que ma prière ne soit pas simplement le matin ou le soir. Il va falloir que je prie comme je respire, que ce soit constamment. J'entends aussi des commentaires de ces promesses. Ellen White écrit dans le premier livre des témoignages, à la page 20, « Chaque prière, procédant d'un cœur honnête et faite avec foi, sera entendue de Dieu et exaucée. Il sera fait droit à la requête au moment opportun, au-delà même de ce qui était attendu. » La prière du véritable enfant de Dieu faite avec foi ne restera jamais sans effet. Et dans un autre livre, Ministère évangélique, à la page 251, cette petite phrase extraordinaire. Il nous est possible de communier avec Dieu dans nos cœurs et de marcher en compagnie du Christ. Il est possible finalement de prier comme on respire. Et de respirer l'air de Dieu. La prière n'est-elle pas la respiration de l'âme? Prier comme je respire, pour la gloire de Dieu, jusqu'à ce qu'il vienne.